Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Pour la première fois, le pape François a réuni l'ensemble des chefs de dicastère de la Curie romaine. Si cette première réunion n'intervient qu'au cours de son sixième mois de pontificat, il n'est pas impossible à l'avenir qu'il souhaite multiplier ce type de conseil des ministres. Le pape qui a visité ce mardi le centre Astalli à Rome, un centre animé par les jésuites et qui s'occupe d'accueillir des réfugiés. Cette visite de François se veut strictement privée. Il a rencontré plusieurs migrants qui sont accueillis dans les quatre centres d'accueil d'Astalli, ainsi que des volontaires qui œuvrent auprès de ces migrants. Un appel pour la paix et la réconciliation nationale en République centrafricaine a été signé à Rome, au siège de la communauté de Sant'Egidio, par des représentants du gouvernement de Bangui, du Conseil national de transition, de la société civile et des confessions religieuses présentes dans ce pays d'Afrique équatoriale. Bienvenue dans ce magazine. Le pape a réuni les chefs de dicastère ce mardi au Vatican. Il les a rencontrés ensemble dans la salle Bologne du palais apostolique. Parmi les prélats présents, le président du gouvernorat, Monseigneur Giuseppe Bertello, ainsi que le cardinal vicaire de Rome, Monseigneur Agostino Vallini, et le cardinal Tarcisio Bertone. Une note diffusée par la salle de presse du Saint-Siège affirme que cette réunion avait pour but d'écouter les considérations et les conseils des plus hauts responsables de la Curie romaine et des principaux collaborateurs du Saint-Père dans le contexte de réflexion du pape sur le gouvernement de l'Église. Compte-rendu Thomas Chabol.
Six mois après le début de son pontificat, le pape a voulu faire le point avec ses plus proches collaborateurs. Après avoir rencontré ces derniers mois tous les chefs de dicastère, un par un pour une ample discussion, le pape François a souhaité écouter les considérations et les conseils de chacun. 30 chefs de dicastère ont ainsi pris part à cette réunion qui a duré près de 3 heures. Cette rencontre a encore précisé le Vatican, s'inscrit naturellement dans le contexte de mise à jour des suggestions présentées par les cardinaux durant les congrégations préparatoires au conclave et dans la réflexion du pape sur le gouvernement de l'Église. Tous les prélats ont pu prendre librement la parole sous forme d'interventions de courte durée, a précisé le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Le père Federico Lombardi a en outre parlé d'une réunion qui s'est déroulée dans un climat de communion et d'écoute, sans toutefois révéler la teneur des discussions. De longue date, plusieurs membres de la Curie demandent que ces conseils des ministres autour du pape soient plus fréquents afin de favoriser la communication transversale au sein de la Curie. Cette réflexion conclut le communiqué du Vatican connaîtra bientôt un autre moment important avec la réunion du groupe des 8 cardinaux début octobre. Le pape réunira alors ses 8 prélats des 5 continents choisis pour l'assister dans le gouvernement de l'Église et la réforme de la Curie.
Les chrétiens sont appelés à annoncer Jésus sans crainte, sans honte et sans triomphalisme. C'est le message transmis mardi matin par le pape François lors de la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le Saint-Père a mis l'accent sur le risque de devenir des chrétiens sans résurrection et a rappelé que le Christ est toujours le centre et l'espérance de notre vie. Dans son homélie, le pape s'est attardé sur les paroles de Jésus dans la lettre de saint Paul aux Colossiens. Saint Paul a-t-il affirmé « Nous conseille à tous de cheminer avec Jésus parce que c'est lui qui a vaincu, cheminé sur ses traces, enraciné et édifié en lui, sur cette victoire affermie dans la foi. » C'est le point central, a souligné le pape François. Jésus est ressuscité, mais a-t-il poursuivi ? Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Je voudrais remercier tous ceux qui ont adhéré à la veillée de prière et aux jeûnes pour la paix. C'est le tweet envoyé ce mardi par le pape 3 jours après cette initiative qui a rassemblé 100 000 personnes place Saint-Pierre. Une veillée de 4 heures qui s'est déroulée en présence de dignitaires des autres confessions chrétiennes et de responsables de l'islam. Que se taisent les armes, la guerre marque toujours l'échec de la paix. Elle est toujours une défaite pour l'humanité, avait déclaré le pape. Le pape François a rencontré les réfugiés du centre Astalli de Rome ce mardi, un centre qui vient en aide à des milliers de sans-papiers. À l'invitation de son président, le père Giovanni Lamana, le Saint-Père a visité la structure gérée par le service jésuite des réfugiés d'Italie. La visite a eu lieu sous forme strictement privée. Après son déplacement sur l'île de Lampedusa le 8 juillet dernier, la visite de François au centre Astalli s'inscrit dans une démarche de dénonciation de la mondialisation de la différence sur la question des réfugiés. Retour sur le rôle du JRS situé en plein cœur de Rome avec Thomas Chabol.
Chaque jour, au moins 450 personnes viennent trouver de quoi manger auprès de cette structure. Les migrants viennent principalement d'Afrique et du Proche-Orient. En ce moment, de plus en plus de Syriens et d'Égyptiens, notamment des chrétiens coptes, font partie des personnes accueillies. Ils fuient les violences de la guerre, la disette et les persécutions dont ils sont victimes. Pour le père Laman, directeur du centre, cette visite va permettre de redonner espoir aux réfugiés.
Le premier fruit de cette rencontre est l'expérience humaine, spirituelle, qui vise à garder intact l'espoir des réfugiés d'avoir une vie pleine de paix et de sérénité. Mais c'est aussi un signal pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner nos pays, de rapporter la paix dans les pays de provenance des réfugiés. Enfin, cette visite est aussi une façon de garder l'enthousiasme d'être au service des pauvres.
Depuis 1981, le centre Astali offre aux réfugiés des soins de santé, une assistance psychologique et légale, des repas et des douches. La plupart des immigrés qui s'adressent au centre sont des musulmans et les volontaires les aident conformément à l'évangile, sans distinction de race, de langue et de religion. Leur histoire est souvent tragique, souligne le père Lamana. Il y a aussi des femmes qui ont fui une situation familiale dramatique. Les réfugiés auront ainsi l'occasion de raconter leur expérience personnelle au Saint-Père.
Chacun a la possibilité de raconter au pape ce qu'il a vécu à son arrivée à Rome. Une histoire différente de la première arrivée en Italie, celle à Lampedusa. Sur l'île sicilienne, les réfugiés arrivent avec le bonheur d'être sains et saufs, avec l'espoir de changer de vie, d'avoir une vie meilleure. Cette expérience à Rome se fait cependant dans un contexte difficile. Notre devoir est donc de faciliter cette deuxième arrivée pour les réfugiés.
Dans son rapport 2013 présenté le 9 avril dernier, le centre d'accueil a indiqué que les demandes d'asile avaient baissé mais que la distribution des repas restait la même. L'année dernière, 21 000 personnes ont été accueillies par le centre de Rome et 34 000 dans les autres centres du territoire. L'Italie fait face toute l'année à des arrivées massives d'immigrés sur ses côtes et l'État italien peine toujours à répondre aux besoins de tous les réfugiés.
Le pape a reçu en audience privée au Vatican le président du Renouveau dans l'esprit, Salvatore Martinez. François a tenu à rappeler le bien que fait ce mouvement à l'Église et au monde. L'entretien a porté sur les activités menées par le mouvement au bénéfice des immigrés à Lampedusa, des prisonniers avec le fonds Sturzo, des enfants et des familles en Moldavie et du Centre international pour la famille de Nazareth, centre confié aux soins du renouveau dans l'esprit. Le pape a démontré un grand intérêt pour les activités spirituelles de formation et d'évangélisation du renouveau dans l'esprit, dont beaucoup avaient déjà été portés à son attention. Un appel pour la paix et la réconciliation nationale en République centrafricaine a été signé à Rome au siège de la communauté de Sant'Egidio par des représentants du gouvernement de Bangui, du Conseil national de transition, de la société civile et des confessions religieuses présentes dans ce pays d'Afrique équatoriale, en proie depuis plusieurs mois déjà à l'instabilité, à une violence diffuse qui a même touché des églises et des lieux de culte. Les différentes parties présentes à Rome ont préparé le texte d'un pacte républicain qui vise à impliquer les forces vives de la nation dans la défense du cadre démocratique et des droits humains et dans la promotion des valeurs de la République pour une gouvernance de paix et de progrès pour l'ensemble du pays. Le texte du pacte a été soumis à la signature du président Michel Djotodia et du premier ministre Nicolas Ndiengai. Les précisions de Marco Impagliazzo, président de la communauté de Sant'Egidio, interrogé par Manuela Afigi.
Il y a plusieurs années que la communauté de Sant'Egidio a à cœur la situation du Centrafrique. Plusieurs exponents des communautés religieuses, catholiques, musulmans sont venus à nous demander d'aider pour la sortie de la crise. Vous savez que très souvent le pouvoir en Centrafrique a été pris par des coups d'État, par la violence. Et aujourd'hui, la population est vraiment fatiguée. Et nous avons pensé au peuple centrafricain, nous avons des communautés de Sant'Egidio à Bangui, et cet appel qui est venu aussi de beaucoup de missionnaires, car il y a beaucoup de missionnaires européens qui travaillent là-bas, car la situation est vraiment catastrophique sur le terrain, pillage, violence, pauvreté. Et donc, on a convoqué un peu toutes les parties, et le comité national de transition, le gouvernement en place, et les membres de la société civile et des personnalités religieuses pour chercher une sortie de la crise. Et nous avons fait un appel pour la sortie de la crise. Ils ont fait appel à Sant'Egidio pour qu'il agisse comme facilitateur de cette sortie. Et on a signé un pacte républicain, on l'a appelé comme ça, pour présenter au président, au premier ministre, pour commencer un processus de transition vers la paix.
Qu'est-ce que ce pacte républicain implique comme engagement ?
Oui, il implique comme engagement la fin de toutes les violences, la fin des destructions des biens publics et privés, et implique l'engagement de tous les partis de la société politique et civile du pays, implique le respect de qui sera l'opposition. Implique pour accéder au pouvoir, il faudra le faire seulement à travers des moyens démocratiques. Mais surtout la fin de la violence et le respect de la population. Et je pense, j'ai des retombées très positives de Bangui. On a eu beaucoup d'échos positifs car les gens commencent à espérer aujourd'hui pour un avenir de paix pour leur pays. Je pense qu'il y a un sursaut un peu de toute la partie politique et civile de la population qui cherchera la paix.
La paix malheureusement encore bien loin. Au moins 60 personnes ont été tuées dans une série de combats dans différentes zones du nord-ouest de la République centrafricaine, en particulier autour de Bossangoa, affrontements qui ont eu lieu entre le 8 et 9 septembre dernier. C'est ce qu'affirme un porte-parole du président Michel Djotodia, qui affirme qu'à l'origine des affrontements se trouveraient des hommes demeurés fidèles au chef de l'État déposé, François Bozizé, lesquels auraient attaqué les combattants de la coalition Seleka, coalition qui s'est arrogé le pouvoir en mars dernier en chassant le président François Bozizé. Dans un entretien accordé à l'agence Fides, le père Aurelio Gazzera, missionnaire Carme, qui se trouve à Bozoum, à quelques 120 km de la zone intéressée par les affrontements, décrit cependant un scénario plus complexe. De ce que je crois comprendre, différents groupes ont été impliqués dans le cadre de ces affrontements, affirme donc le père Gazzera. Nous nous trouvons face à un mélange de militaires du président déposé, de rebelles, de l'APRD, l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie, au moins à ce que l'on m'en a dit. Ce groupe avait commencé un processus de désarmement et de démobilisation sous le régime de Bozizé, mais après l'arrivée au pouvoir de la coalition Seleka, une partie de l'APRD s'est réorganisée et réarmée, confie donc le prêtre. À tout cela, il faut ajouter, à mon avis, l'exaspération de la population après des mois et des mois de violence et de saccage perpétrés par la Seleka, affirme le prêtre. Le missionnaire indique en outre que les tensions entre les différentes communautés religieuses se font toujours plus préoccupantes, ceci parce que des bandes inconnues attaquent les populations musulmanes, provoquant les réactions de la Seleka, qui agresse à leur tour les chrétiens. Quelqu'un qui, pour l'instant, demeure dans l'ombre veut provoquer un conflit confessionnel en se servant de groupes locaux qui connaissent très bien le terrain, conclut le père Gazzera. Direction maintenant la France. Elle sera bientôt affichée dans toutes les écoles publiques de l'Hexagone. Une charte de la laïcité rappelle en 15 points les principes fondamentaux de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Elle reprend aussi une loi de 2004 qui interdit de manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Alors que la question du port du voile islamique, de l'étoile de David ou de la croix ou encore l'absence des élèves les jours des fêtes religieuses reviennent régulièrement dans le débat, quels sont donc les avantages et les limites d'une telle charte ? La laïcité est-elle malmenée à l'école ? Écoutez les explications de Philippe Portier, directeur du groupe Société, Religion, Laïcité.
Les avantages d'une telle charte sont, du point de vue en tout cas du ministre de l'Éducation nationale, d'affirmer encore une fois l'idée que l'école, tout en respectant la diversité des élèves, doit cependant se forger autour d'une communauté de valeurs. Dans une société qui est angoissée par le péril de l'ethnicisation, de la communautarisation. C'est un des grands points depuis les années 2000 du discours politique en France. Il y avait, pense le ministre, mais ses prédécesseurs, Luc Chatel ou François Fillon, allaient dans le même sens, pensent qu'il est tout à fait nécessaire de reconstituer le lien social autour de valeurs intégrées. C'est à partir de l'école qui forge la personnalité et qui est le point de départ de la citoyenneté que cette entreprise d'affirmation de valeurs communes doit se déployer.
Et quelles sont les limites d'une telle charte ?
D'une part, des limites juridiques. La charte n'a pas en soi de valeur juridique, mais c'est bien normal. Elle est là simplement pour rappeler des valeurs, même si à l'intérieur de la charte, on trouve des points qui ne sont pas sans évoquer. Les règles de droit applicables en France, et je pense en particulier à ce point qui vise à prohiber le port des signes religieux à l'école publique. Le second point, c'est un point qui est plus pratique, moins juridique, c'est cette idée que l'appartenance à une communauté, l'affirmation de valeurs partagées, d'une certaine manière ne se décrète pas, mais se construit par un travail pédagogique quotidien, auquel d'ailleurs le ministre actuel, comme ses prédécesseurs, se sont attachés, en essayant de développer dans les écoles des cours, par exemple, d'instruction morale.
Et est-ce que cette charte peut être reçue de la même façon dans les différents établissements ?
La carte scolaire présente en effet des différences très importantes entre établissements. Alors, ce que les chefs d'établissement préconisent, c'est de renforcer la mixité pour éviter que certaines poches se construisent autour de revendications communautaires. Ayant fait ce constat, qu'il faut probablement faire une distinction entre les établissements. Il y a des établissements où la charte de la laïcité, du fait de la composition de la population des élèves, aura plus de mal à s'imposer, et puis d'autres établissements où la question ne se pose absolument pas.
Est-ce que la laïcité est malmenée dans les écoles ?
Il y a eu simplement, depuis les années 1990, des établissements dans lesquels les règles ordinaires de la laïcité ont été remises en cause. On a eu des livres finalement assez angoissés en la matière. Je pense au livre d'Emmanuel Brenner, par exemple, « Les territoires perdus de la République ». Je pense aussi à des rapports, comme le rapport Aubin en 2004, qui ont signalé que dans certains établissements, pas dans tous bien sûr, il y a eu des atteintes à ce qu'on pourrait appeler les principes de laïcité, qui sont d'ailleurs rappelés dans la charte en question. Il se trouve que ces écoles, on tente aujourd'hui de les remettre dans le cercle commun de la laïcité lorsque se manifestent dans leur sein des attitudes qui vont à l'encontre des principes énoncés. C'est donc en effet l'idée de rappeler que l'école est un territoire, comme disait Jacques Chirac, sanctuarisé, à l'intérieur de laquelle ne peuvent prévaloir sur la règle commune les affiliations particulières et en particulier les affiliations religieuses.
Et en France ?
Le récent rapport de l'Observatoire de la laïcité, qui a été mis en place par François Hollande, constate que finalement la situation de la laïcité est relativement apaisée pour ce qui concerne la France. Et que donc, il ne faut pas exagérer l'ampleur des défis que rencontre aujourd'hui le service public hospitalier, service public scolaire, par exemple. Les choses se passent plutôt mieux qu'on ne le croit et on aurait peur de céder aux inquiétudes, aux angoisses de toute une partie de la population sur ce terrain.
C'est avec cet entretien de Philippe Portier, directeur du groupe Société Religion Laïcité, mené par Audrey Radondi, que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.